Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Je suis aujourd'hui au manoir du Plessis-aux-Bois, au Plessis-aux-Bois donc, non loin de Villers-Cotterêts, avec Paul-Étienne Lehec et Diane de Longmar. Ils vont nous parler de l'histoire de ce lieu, donc ce manoir, ainsi que de la plantation d'un nouveau verger l'automne dernier. Paul-Étienne Lehec, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire du manoir du Plessis-aux-Bois, cette magnifique propriété ?
Alors, en fait, historiquement, le Plessis-aux-Bois, puisque c'est un plessis, c'était une maison qui était entourée de palissades. Alors, qui n'est pas sur une colline, mais sur un plateau. Donc, elle était en bois, entourée de palissades. Alors ça, on parle du très haut Moyen-Âge, où il y avait déjà un seigneur, et puis elle est devenue en pierre, probablement autour du XIIe siècle. Et à ce moment-là, au lieu d'être en bois, pour se protéger, on construit en pierre, ce qui est tout à fait normal dans la région, puisque notre région est bourrée de carrières, dont pas mal sont encore ouvertes, et on produit un certain nombre de monuments à Paris. Alors, ce calcaire de la région était très utilisé, donc ça a donné lieu à la construction de plein de monuments, dont le Plessis-aux-Bois. Et ce qu'on voit à l'extérieur des bâtiments n'est pas de cette époque, du XIIe siècle, mais plutôt du XVe et du XVIe siècle. Alors, architecturalement, le manoir se compose de plusieurs parties. D'abord, il y a un vieux logis qui est la partie centrale et qui est extrêmement simple du point de vue de l'utilisation intérieure de l'espace. Vous avez une porte et puis vous avez un escalier qui monte à l'étage et qui est hors œuvre, c'est-à-dire qui n'est pas dans le bâtiment, et qui est en fait un escalier à vis, pour diverses raisons. La première, c'est que, évidemment, quand c'est un escalier à vis, c'est beaucoup plus facile de se protéger contre des agresseurs quelconques. Et la deuxième, qui est aussi importante, c'est que ça ralentit la progression du feu quand il y a un incendie. Alors je reviens au niveau du rez-de-chaussée. Là, vous avez deux salles. Il y avait cuisine, qui est devenue une salle à manger, mais bien plus tard. Et puis, une autre pièce assez grande et haute de plafond, que dans les textes moyenâgeux, on appelle une aula, A-U-L-A, qui est en fait une pièce de réception, mais en dehors de la famille proche. Les gens de la famille habitant au premier étage, où on a la même configuration, d'une part une chambre seigneuriale, et puis d'autre part, ce qui s'appelait la salle haute. Alors, en dehors de cette partie qu'on appelait le vieux logis, vous avez un donjon qui est hexagonal et qui présente à l'intérieur trois niveaux d'étages qui sont surélevés par rapport au sol, et le premier niveau, c'est une cave ogivale, donc qui est antérieure à ce qu'on voit du donjon actuel, qui a été reconstruit à partir de environ 1453, donc après la guerre de Cent Ans, et qui est en briques et en pierre, et qui, dans les étages supérieurs, était à usage d'habitation. Et puis, il y a un autre, troisième bâtiment, qui est en équerre par rapport au vieux logis, et qui, lui, était aussi construit au XVe siècle avec des fenêtres très éloignées les unes des autres et chanfreinées, ça veut dire avec des pans coupés, mais qui a été restructuré au début du XVIe siècle avec des modénatures, des arrangements architecturaux qui sont de la première Renaissance. Donc là, vous avez des pilastres verticaux, des bandeaux horizontaux et au-dessus des pilastres, des chapiteaux et puis des fenêtres à meneaux et au dernier étage, deux niveaux dans le toit de lucarnes à meneaux et à frontons. Donc on a un corps de bâtiment qui est au goût du temps de la Renaissance et qui est très différent du reste qui est resté, lui, dans un état du XVe siècle. donc beaucoup plus sévère. Alors, du point de vue de l'espace extérieur, il y a plusieurs jardins qui sont tous clos, de murs d'enceinte, ce qui fait que, en fait, on a une structuration de l'espace des différents jardins qui était historiquement, c'est toujours le cas, d'une part un potager, qui a toujours été un potager, même s'il est plus petit maintenant des surfaces, puisque en fait il faisait en gros un demi-hectare, et bien sûr c'était parce qu'il y avait énormément de gens qui travaillaient dans la propriété, donc il fallait nourrir. Mais maintenant nous ne sommes plus que deux, donc...
C'est vous qui vous occupez de tous les espaces, hein?
Bah,
il y a un jardinier quand même qui vient de temps en temps.
C'est bien d'être jardinier. Et puis alors, en dehors du potager, sur les autres espaces, bon, il y a la cour intérieure qui devait avoir un aménagement, mais que nous avons restructuré par une réinterprétation. Ce n'est donc pas exactement ce qu'il pouvait y avoir au 15e ou au 16e siècle. Et puis, vers le sud, toujours entouré de murs, il y a une résurrection de ce qui était à l'époque un verger. Alors, cet espace est divisé en 5 jardins différents qui sont clos chacun de palissades de hêtres qui forment en quelque sorte des murs de façon à ce que chacun de ces clos ne se voit pas avant d'y pénétrer. L'espace central, nous l'appelons la basilique parce qu'il est en forme de temple d'origine grecque mais même chrétien puisqu'il a 2 branches latérales et qui permettent en fait par des ouvertures et par ces 2 branches d'accéder à chacun des jardins. Alors dans ces jardins, il y a une partie de verger qui est plantée d'arbres fruitiers
depuis 2 mois
et puis un autre jardin qui est surtout consacré à des fleurs, un troisième endroit qui est un bosco de buis qui lui, dans la tradition des jardins de la Renaissance italienne, représente l'opposition entre le jardin qui est construit par l'homme avec la nature dite sauvage. Tout le monde sait très bien que cette nature n'est pas vraiment sauvage.
Pas.
Nous ne sommes pas du tout dans une région de forêt primaire. Mais enfin...
Très domestiqué au contraire.
Voilà, exactement. Et puis ensuite, on passe dans un autre jardin qui est plutôt consacré à des petits fruits, des framboisiers, des groseilliers. Et puis, on arrive enfin à ce qui était autrefois dans les textes qualifié de fosse à poissons, une sorte de mare, si vous voulez, mais qui n'est pas comme une mare ordinaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un trou avec de la glaise au fond, mais le fond est pavé de pierres plates, ce qui fait que ce bassin était toujours empoisonné, il l'est toujours d'ailleurs, et que régulièrement, il était vidé, nettoyé et réensemencé en poisson. C'est toujours le cas. Le total de la propriété à l'intérieur des murs fait 1 hectare, y compris les bâtiments. Donc vous voyez qu'en fait, c'est une propriété encore très marquée par un espace clos qui est avec des fenêtres assez hautes, assez étroites et qui a un caractère manifestement encore défensif, y compris le jardin, qui n'est pas ouvert comme au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle sur le paysage environnement. Donc on est entouré de la forêt, mais la forêt, on ne la voit que son fait, la canopée, que en dessus des murs.
Oui, en dehors des murs, en fait.
En dehors des murs.
Il faut sortir de la forteresse.
Exactement. On est encore très défensif et on se méfie plutôt, peut-être des gens qui ne sont pas forcément bien intentionnés, mais surtout des bêtes et des bêtes sauvages.
Alors, Diane, vous avez planté un verger, en fait, hein, pendant le second confinement, c'est ça ?
En fait, je pensais avoir suffisamment de pommiers et de poiriers, vu que j'ai une trentaine de variétés quand même déjà dans le potager. Mais en cherchant mieux à comprendre les choses, je me suis aperçue que les pommes que j'avais plantées, les pommiers, étaient des pommiers qui n'avaient pas de pommes de garde. Et c'est l'intérêt de ce fruit. C'est un des rares fruits qu'on peut garder si on les stocke bien comme il faut. Or, je me suis aperçue que les pommiers que j'avais dans le potager étaient à maturité en octobre.
C'est-à-dire qu'en fait, tu es obligé de les manger en octobre,
ah bah
en
après,
fait, à l'automne.
Après, elles sont plus bonnes, elles deviennent blettes. Et là-dessus, je me suis donc décidée à planter ce petit verger pour y planter essentiellement des pommiers de garde.
Qu'est-ce que c'est, les pommes que tu aimes ?
Alors, écoute, j'aime les pommes croquantes, juteuses, éventuellement acides, mais surtout pas molles.
Et qu'est-ce que c'est comme type de variété, du coup, ce que tu aimes, ce que tu as planté ?
Alors voilà, ce que j'ai planté, il y a la colle à puits qui est juste devant toi. Il y a également des pêchers et des pruniers. Et il y a un flaqueminier. C'est un fruit rouge qui a la caractéristique de rester sur l'arbre et qui est mûr l'hiver, qui s'appelle le kaki.
Ah bah oui. Si, je connais le kaki,
oui.
Ouais.
Qui a la qualité particulière d'être ce qu'on appelle astringent, c'est-à-dire très très âcre. Mmh. Mais qui, quand il est pourri, ne l'est plus et devient bon. Pour ceux qui n'aiment pas l'astringence, j'aurai des fruits dans 3-4 ans, voire 5 ans. Là, ce qui m'intéresse, moi, c'est la formation. Je vais les former en gobelet. Alors, il y a le terme gobelet qui correspond aussi à la forme boule. En gros, l'idée, c'est qu'il soit un départ bas. Tu vois, ce n'est pas un arbre avec un tronc. C'est un arbre dont le tronc fait à peine 50 cm et les premières branches démarrent
très bas.
Voilà. Et donc, ça va être un verger bas et les arbres, dans 10 ans, vont couvrir presque l'espace. Donc, ça va créer un effet d'ombre au sol. Et l'idée, c'est que l'ensemble soit cohérent avec la chaleur de l'été. On dit beaucoup que maintenant, on va avoir de moins en moins d'eau. L'été...
On le ressent déjà depuis quelques années, de toute façon.
Donc, ouais. Les arbres, il faut les planter de façon à ce qu'ils soient... Ils se créent presque une ombre les uns aux autres. Donc, c'est pour ça qu'ils sont assez rapprochés. Ils sont à 5,50 m les uns des autres. Avant, si tu veux, l'idée, c'était de mettre des moutons. Aujourd'hui, on aime la forêt vierge. Donc, on aime quand ce n'est pas net. Et pourquoi pas planter à nouveau d'autres fruits, des petits fruits rouges qui sont bas et qui créent aussi de l'ombre. Le tout, c'est d'essayer de maintenir une zone humide autant que possible sans arroser.
Et c'est ta passion, le jardin, les vergers ? Tu as déjà une connaissance de base, de toute façon, mais après, tu as réfléchi.
J'ai appris sur le tas. Au départ, les pommiers que j'ai plantés dans le potager, ce n'est même pas moi qui avais choisi les essences. J'avais planté des arbres palissés, donc ce ne sont pas des arbres de plein vent comme là, tu vois, qui sont libres. Là, je les ai plantés contre un mur dans le potager, donc ils sont très formés et ils ont une forme dite croisillon, c'est-à-dire qu'ils n'ont que deux branches. Alors, c'est très joli, mais comme je t'expliquais au début, ces variétés ne sont pas des variétés de garde.
On rappelle que tu es sculptrice, donc c'est intéressant, en fait, je trouve, de réfléchir à une sculpture d'arbre.
Ben
n'est-ce
c'est
pas
ça, ça a forcément un lien,
ouais.
Parce que plus ça va, plus je m'intéresse à la formation des arbres, à la structure, à leur donner une forme. Quoi.
En plus, tu sculptes le bois aussi, ça faut le rappeler quand même, c'est important.
Mais jusqu'à maintenant, j'avais toujours planté des arbres qui étaient intéressants pour la sculpture par hasard, tu vois, les buis, beaucoup. Remarque, les arbres fruitiers sont très prisés pour la taille aussi, mais c'est du bon bois de sculpture. Enfin là, faudra attendre, je ne sois plus là.
Puis c'est surtout, tu vas profiter des fruits aussi quand même, c'est un petit peu le but.
Là quand même, c'est l'idée, c'est les fruits aussi. C'est un ensemble, c'est ça qui est bien. Et puis la notion du verger, je ne sais pas, est une notion très apaisante. On est bien dans un verger.
Et tu avais l'espace pour en plus.
Il se trouve que ce jardin n'avait pas été fait. Il y avait un projet de graminée, donc un jardin tout à fait différent.
Mais 19 arbres fruitiers, c'est quand même déjà beaucoup. Donc, qu'est-ce que tu vas faire de tous ces fruits quand il y en aura ?
Ah, je vais les manger, il n'y a aucun problème.
Ouais.
Tu vois, je mange 3 à 4 pommes par jour et il n'y a plus de pommes très vite. Hein.
Le manoir du Plessis-aux-Bois, en tout cas, il est ouvert au public. Donc, on peut le visiter l'été, c'est ça ?
Et donc, jusqu'en septembre, à la fin des jours, avec les journées du patrimoine, en fait, ça s'arrête...
À la fin septembre.
À la fin septembre.
Bon, bah écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Et puis, à noter que cette forteresse est ouverte au public.
C'était Anne-Laure pour RVM. J'étais avec Paul-Étienne Lehec et Diane de Longuemare, propriétaires du manoir du Plessis-aux-Bois, qui nous ont expliqué l'histoire du lieu ainsi que la plantation d'un nouveau verger en automne dernier. À bientôt sur RVM, la radio qui vous écoute.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.